Ce soir, nous recevons Denis Kessler. Denis Kessler est agrégé de sciences économiques et de sciences sociales, diplômé de l'École des hautes études commerciales, docteur d'État en économie et titulaire d'un DEA de philosophie. Il est aujourd'hui président de la Fédération française des sociétés d'assurance, vice-président délégué du MEDEF, membre du Conseil économique et social, du Conseil national des assurances, du Comité européen des assurances et de la Commission économique de la Nation. Il est membre de l'Association française de sciences économiques, de l'International Association for Research on Income and Wealth et du Conseil de surveillance de Paris-Bas. Ses ouvrages, ils sont nombreux. Il est l'auteur de « L'épargne et la retraite » 1982, « Cycle de vie et génération » 1985, « Épargne et développement » 1985, « Modeling the accumulation and distribution of wealth » 1988, « Système financier et développement » 1991, « La société française au XIXe siècle » 1992. Malheureusement, je n'ai pas les éditeurs, mais vous trouvez tout ça sur notre site internet. Voilà, et bien écoutez, monsieur Denis Kessler, c'est à vous.
Bien. Merci madame de cet accueil. C'est avec une grande nostalgie que je suis ici ce soir, puisqu'il y a 24 ans, j'étais enseignant au CNAM, à l'Institut technique de prévision économique et sociale, où j'enseignais à l'époque les probabilités, les statistiques. Je ne savais pas d'ailleurs, lorsque je venais animer ces cours, que je serais assureur 23 ans plus tard. Ceci dit, le lien entre les probabilités, comme vous le verrez, les statistiques et l'assurance sont plus étroits qu'on ne le pense généralement. Et puis beaucoup de nostalgie aussi à participer à ce grand cycle dans lequel j'aurais souhaité venir à la plupart des conférences, puisque de nombreux amis y sont venus sur des problèmes qui m'intéressent au plus haut point, les relations entre les générations, Chauvel, mon ami Gaulier sur le vieillissement, et puis demain Bernard Brune, comme quoi les trois personnes qui entourent ma conférence sont des gens dont je suis proche, et en tout cas dont je suis les travaux, et dont je trouve les travaux particulièrement intéressants. Le sujet de ce soir, c'est anticiper et gérer les risques au XXIe siècle. Alors, la thèse que je vais défendre ce soir, et d'ailleurs que je défends avec François Ewald, également professeur au CNAM, ici présent ce soir, c'est qu'en fait, toute société, quelle qu'elle soit, s'organise en fonction des risques auxquels elle est appelée à faire face. Alors, certains ont pensé que les sociétés s'organisaient en fonction du rapport entre les sexes, d'autres ont pensé que c'était la propriété des moyens de production et les rapports entre classes sociales. Nous considérons que, quand on regarde l'histoire longue, on s'aperçoit que les risques, la façon dont une société, une collectivité va gérer les risques de toute nature auxquels elle doit faire face, eh bien c'est ça ce qui va lui imprimer sa dynamique, c'est ça ce qui va se traduire dans des institutions, c'est ça ce qui va se traduire dans des législations, dans des règles, c'est ça ce qui va procéder à des répartitions du revenu national, de la richesse, et c'est ça ce qui, grosso modo, va impulser une dynamique propre à la société. Je suis d'ailleurs frappé de voir que le débat politique contemporain tourne essentiellement autour des problèmes de la gestion des risques. Regardez dans l'actualité, nous parlons de problèmes comme l'avenir des retraites, considéré comme étant risqué. On parle d'un naufrage d'un bateau ayant donné lieu à des pollutions et des atteintes à l'environnement. On embraye immédiatement sur une catastrophe naturelle et les conséquences des tempêtes, pour après parler du développement de tel ou tel virus. Et puis on s'interroge sur la mise en jeu du principe de précaution ou sur la maladie de la vache folle. Quand on regarde la façon à l'heure actuelle dont le débat politique dans les grandes sociétés démocratiques dont la France fait partie, eh bien on constate que les risques représentent l'alpha et l'oméga du débat politique. D'ailleurs, la gestion des risques est omniprésente, tellement présente qu'elle absorbe quasiment tout l'espace politique, chacun d'ailleurs ayant sa solution pour supprimer, éradiquer le risque, atténuer ses conséquences. Et on voit bien là que la politique moderne, en fait, exprime tout haut ce que l'histoire nous a montré peut-être tout bas. La question des risques est absolument consubstantielle à l'organisation sociale. Alors évidemment, les risques sont de toute nature. J'en ai cité quelques-uns qui relevaient d'ordres différents, mais on peut parler des risques de guerre, notamment des risques de guerre extérieure, qui pendant longtemps a quand même entraîné la formation des États modernes et leur constitution, les risques de guerre civile, les risques d'épidémie. Dieu sait si dans l'histoire, bien avant les épidémies modernes, les grandes épidémies qui étaient, par exemple, la peste, pouvaient représenter à l'époque un événement majeur pour l'organisation sociale. Bien entendu, les risques issus de la technologie. À chaque fois qu'une technologie apparaît, elle crée certes des richesses, mais elle crée les risques qui y sont associés. Les risques financiers, extrêmement importants dans l'histoire économique contemporaine, car au cours des deux derniers siècles, bien souvent, c'est à l'issue de grands cracks financiers, de difficultés financières majeures, inflation, dévaluation, bouillon sur le marché boursier, que l'on a mis en place les institutions financières que vous connaissez et que l'État est intervenu dans la vie économique des pays. Et puis, bien entendu, les risques sociaux, je les ai mis à la fin, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais c'est parce qu'ils occupent à l'heure actuelle la place que l'on sait dans le débat politique. Les risques sociaux sont tout à fait au cœur des débats politiques contemporains. D'ailleurs, quand vous y pensez, le 19e siècle, vous avez des tas de dates en tête qui sont associées justement à ces rythmes de l'histoire où le risque a donné à un moment ou à un autre le coup de cymbale ou le coup de tambour qui permettait de montrer que l'histoire avait changé. Et vous savez comme moi, vous le savez, la grande crue de la Seine en 1910, vous savez comme moi le naufrage du Titanic en 1913, vous savez comme moi les grands conflits mondiaux 14-18, 39-45, vous savez comme moi le krach financier de 1929, vous avez en tête l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima en 1945, vous savez ce qui s'est passé en 1968, moi aussi, et puis vous avez d'autres dates comme la détection du sida en 1985, vous avez les tempêtes du 26, 27 et 28 décembre de l'an 1999, il n'y a pas si longtemps, ou le bogue de l'an 2000, sans parler, par exemple, du naufrage que j'ai cité de l'Erika. Voilà ce qui me semble important. J'en ai cité quelques-uns, il y en a quantité d'autres, bien entendu, qui viennent montrer comment les sociétés sont appelées à trouver des solutions pour les risques anciens ou les risques nouveaux que la société doit affronter. Le XXe siècle a une caractéristique par rapport à l'ensemble des autres siècles précédents, et notamment la seconde partie du XXe siècle, c'est la prise en charge collective des risques sociaux, avec l'apparition de l'assurance maladie obligatoire, ce qui fait que, alors que le risque d'être malade était individuel, le fait d'avoir mis en place une institution comme l'assurance maladie obligatoire a fait que ce risque d'individuel est devenu social et l'objet de quantité de débats. Ayez en tête ce qui s'est passé en 1995, ce qui se passe autour à l'heure actuelle de l'avenir de la CNAM. Bien entendu, autre grand phénomène, l'assurance retraite obligatoire, ce risque qui était encore une fois de devenir âgé et inactif était géré dans le cas de la famille, dans le cas du village, dans le cas des solidarités corporatistes ou des corporations, eh bien le fait d'avoir institué, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des régimes collectifs de prise en charge du risque vieillesse, ça fait que nous avons désormais un objet politique dont l'avenir, dont le développement est absolument fondamental, comme le montrent encore une fois les débats de l'année 1999 et du début de l'année 2000 organisés par le Premier ministre. Il en va de même, d'ailleurs, pour le risque d'être sans emploi. Il faut savoir que l'assurance chômage en France, la reconnaissance sociale du risque chômage, ne date que de 1958, création de l'UNEDIC. Auparavant, ce risque était traité, non pas dans le cadre social d'une reconnaissance explicite, mais avec une assurance obligatoire. Mais comme vous le savez, le chômage était une situation qui n'appelait pas d'intervention étatique, en tout cas collective. Alors, ça, c'est les aspects visibles, les systèmes explicites de transfert de revenus, où on dit qu'il y a un risque, chômage, maladie, vieillesse ou survie. Et puis, bien entendu, les risques supposent aussi une intervention des pouvoirs publics sous la multiplication des législations, ce que j'appelle la germination des législations, supposées limiter les risques et trouver systématiquement les moyens d'indemniser leurs conséquences négatives. Alors, je ne citerai pas les législations comme celles concernant les catastrophes naturelles en 1982, ou le fait que la responsabilité d'un conducteur est obligatoire en France, ça ne l'est pas dans tous les pays, en France ça l'est devenu au cours du XXe siècle, ou la multiplication des fonds de garantie qui permettent à l'État d'indemniser les victimes, par exemple des calamités agricoles, ou les victimes des attentats. Regardez la vague d'attentats au milieu des années 80 et sa conséquence qui a été la mise en place d'un système de fonds de garantie. Aujourd'hui, en France, 30% à peu près du revenu national français est consacré à la gestion collective des risques. Ça représente une somme en francs tout à fait considérable, 2 496 milliards de francs en 1998. Et on sait que la dynamique des dépenses fait qu'une part croissante du revenu national est absorbée par ces dispositifs. Quand on regarde ce qui s'est passé sur la seconde moitié du XXe siècle, on constate que le fait marquant a été la croissance ininterrompue de ce que la collectivité a décidé de consacrer à des opérations de mutualisation des risques. Cet après-midi même, nous discutions de l'assurance chômage. En 1958, le taux de cotisation employeur et salarié était de 1% du revenu. Il est à l'heure actuelle, comme vous le savez, supérieur à 6%, donc en l'espace de quelques décennies, on a multiplié par 6 la ponction qui est faite sur le revenu des salariés et sur les comptes d'exploitation des entreprises. En ce qui concerne les retraites, mais je pense que d'autres orateurs en ont parlé, comme vous le savez, au cours de ces 20 dernières années, le pourcentage dans le PIB a doublé. Alors, l'État justifie, bien entendu, le développement de ces interventions. Quand je dis l'État, c'est au sens générique du terme, parce que les partenaires sociaux y contribuent. Justifie le développement de ces interventions par sa capacité supposée à absorber des risques que ne souhaitait pas supporter la majorité des citoyens. Je vous l'ai dit, le risque est un objet politique primordial dans les sociétés contemporaines, et donc l'État trouve une justification à en faire son objet et à intervenir en considérant que s'il n'intervient pas, la gestion des risques n'est pas aussi satisfaisante à la fois pour l'individu et pour la collectivité, que c'est le cas lorsqu'il intervient. Alors, quand on regarde au fond ces interventions, on constate que ça repose sur 4 hypothèses de comportement que l'on a vues tout au long, j'allais dire explicitement ou implicitement, évoquées tout au long des décennies passées. Dans leur majorité, dit-on, les citoyens sont supposés être d'abord mal ou sous-informés sur les risques qu'ils sont appelés à affronter, ce que j'appelle une hypothèse de sous-information, une hypothèse de méconnaissance. Les citoyens sous-estiment leur durée de vie, par exemple dans le cas de la retraite. Ils sous-estimeraient les probabilités d'attraper une maladie grave, que ce soit un cancer ou une maladie dégénérative. Eh bien, les ménages sous-estimeraient le risque de perdre leur emploi et de se retrouver durablement privés de ressources. Donc, hypothèse de sous-information. Deuxième hypothèse, on considère que la majorité des acteurs économiques, notamment des ménages, seraient impatients, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de préférence pour le présent, comme l'on dit dans notre jargon, très élevé. Ils seraient donc court-termistes, ils négligeraient le long terme et le sort des générations futures. Là, l'État dit, moi j'ai un horizon temporel supérieur à celui des citoyens, qui la plupart du temps ont un horizon relativement borné, comme on dit, ils vivent au jour le jour, au mois le mois, à l'année l'année. L'État, lui, a un horizon long, du fait que par hypothèse, lui, est éternel. Et donc, vous voyez qu'on oppose des citoyens qui ont un horizon trop court pour prendre en charge le comportement de prévoyance, de précaution. Bref, cet horizon trop court serait dirimant à une attitude rationnelle face à l'ensemble des risques qu'une société doit affronter et que chaque citoyen doit affronter. La troisième hypothèse, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, en tout cas en nombre suffisant, seraient inconscients, c'est-à-dire prêts à se surexposer aux risques, soit, j'allais dire par méconnaissance, je l'ai dit, mais aussi par le fait qu'ils sous-estiment les conséquences des risques et donc sont prêts à vraiment, finalement, augmenter la probabilité de survenance des risques. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de faible aversion au risque. Si on ne le redoute pas suffisamment, on n'a pas la conduite face au risque, quel qu'il soit, de se prévenir. Et si, par exemple, on accorde peu d'importance à la situation de se retrouver chômeur, peut-être qu'on adopte le comportement qui n'est pas le comportement qu'il faudrait en termes, par exemple, de requalification, d'acquisition de compétences. Cet exemple vaut ou ne vaut pas. L'important, c'est d'illustrer ce que voudrait dire cette hypothèse de faible aversion au risque. Et puis, dernier point, c'est l'hypothèse dite d'égoïsme, difficilement traduisible en tout cas, c'est que les acteurs seraient spontanément insensibles aux difficultés d'autrui et en tout cas plus insensibles qu'auparavant, ce qui se traduit d'ailleurs l'affaiblissement des solidarités familiales, des solidarités villageoises, mais aussi des solidarités professionnelles. Et donc si les différentes institutions qui forment une société ne prennent plus en charge les risques, si la famille n'absorbe plus les risques comme elle l'a fait historiquement, il faut bien que quelqu'un se substitue à la famille, et c'est l'État qui tout d'un coup voit son rôle de nouveau apparaître en pleine lumière. Alors l'État a également justifié son intervention au long du XXe siècle par les difficultés financières rencontrées, telles que les inflations, les dévaluations, qui ont, c'est vrai, ruiné un nombre considérable de gens qui s'étaient prémunis contre les risques. Et donc l'État a dit, notamment au lendemain de guerre, lorsqu'il y a des fortes inflations et des profondes difficultés, eh bien l'État, dans ce cas-là, par exemple, a mis au point le régime de retraite par répartition pour sauver de la misère les générations qui avaient été ruinées par les conséquences du premier et surtout du second conflit mondial. Et puis l'État, bien entendu, avance également des événements comme les faibles rendements réels des marchés financiers, si les gens font confiance pour se protéger à des phénomènes financiers, les fluctuations boursières, j'ai cité les cracks, c'est pas un hasard, si le crack de 1929 a donné lieu à toute la législation américaine qu'on appelle le Glass-Steagall Act en 1932, si ma mémoire est bonne, et ce n'est pas un hasard si en 1935, les États-Unis ont été le premier pays développé à mettre au point un régime de retraite obligatoire pour l'ensemble des citoyens américains. Effectivement, la ruine des épargnants due au crack s'est traduite par la mise en place d'un mécanisme collectif. Et puis, dernier point, hypothèse classique, c'est ce qu'on appelle les dysfonctionnements des marchés de couverture de risque. Lorsque les gens recourent à des mécanismes non étatiques pour gérer leurs risques, l'offre est insuffisante, on ne trouve pas de personnes pour gérer et absorber les risques, et il y a un problème bien connu, un peu technique, qu'on appelle la sélection adverse, qui est que seuls ceux qui connaissent les risques et qui veulent s'en prémunir se tournent vers, par exemple, les sociétés mutuelles ou les sociétés d'assurance ou les sociétés de prévoyance pour se garantir. Ce n'est donc pas un tirage aléatoire dans la population, et voyez bien que si c'est seuls ceux qui savent qu'ils vont vivre longtemps souscrivent des rentes, vous avez un phénomène dans lequel les marchés ne fonctionnent pas correctement. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse et qui montrait que seules les assurances obligatoires permettaient de contrer ce phénomène de sélection adverse. En dépit de sa contribution indéniable, et j'insiste sur ce point qu'il n'y ait point d'ambiguïté, une contribution indéniable au bien-être collectif, puisque tout ceci a permis d'améliorer à la fois le sort individuel et le sort de nombreuses générations, l'intervention de la collectivité, de l'État, dans la gestion et la couverture des risques est aujourd'hui sujette à question. D'abord pour des raisons macroéconomiques, les problèmes de coût des prélèvements sociaux, le montant des cotisations. Nous sommes en économie ouverte, insérée dans l'Europe, et l'Europe est insérée dans le monde. Et on voit que lorsqu'on a consacré, comme je l'ai dit, un tiers du PIB à ces couvertures et que les économies sont en compétition les unes par rapport aux autres, il y a toujours un danger que de vouloir augmenter les cotisations sur les entreprises et les salariés français conduise à un espace de production moins attractif, moins performant que d'autres espaces de production. Nous sommes liés avec désormais la même monnaie à 11 pays, enfin 11 pays ont lié leur destin, et c'est la raison pour laquelle certains disent, attention, le modèle du XXe siècle ne peut pas perdurer comme il a pu se développer dans les années passées. Puis pour des raisons microéconomiques ou microsociales, c'est la question des effets pervers qui ont alimenté une littérature extrêmement importante. Effets pervers des assurances obligatoires sur l'offre de travail, c'est bien connu, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse, la première à le formuler en 1935, c'était Rueff, et également effet pervers sur l'offre d'épargne. Si je suis pris en charge, il est inutile de faire l'effort d'épargne moi-même. Sur éventuellement une hypothèse qui a été avancée par un chercheur américain qui s'appelle The Old Age Security Effect sur la fécondité, qui semblerait non pas testé dans les pays développés, mais en tout cas dans les pays en développement. Lorsqu'il y a un système de retraite qui prend en charge des parents âgés, ceux-ci ont moins, j'allais dire, tendance à avoir des familles nombreuses qui les prenaient en charge auparavant. Et on a pu voir que l'introduction de régimes de retraite dans des pays comme le Mexique ou l'Indonésie s'est immédiatement traduit par des baisses importantes des taux de fécondité dans ces pays. Et puis, il y a des raisons microéconomiques bien connues. C'est que si, effectivement, tout est obligatoire, le principe de responsabilité qui a été au XIXe siècle, avant le XXe, au cœur de la construction sociale, est sensiblement affaibli. Je rappelle qu'au XIXe siècle, la responsabilité était supposée, d'abord et avant tout, reposer sur chacun des acteurs. Alors, le XXe siècle a été caractérisé, en fait, par quatre grandes évolutions. La dévalorisation de la prise de risque individuelle, conjuguée à une revalorisation continue de ce que j'appellerais les formes de sécurité collective. Deuxième grande évolution évidente, quand on regarde les budgets, notamment militaires et les budgets de défense, c'est la mobilisation sans précédent contre les risques externes à la suite des deux guerres mondiales et de la guerre froide. Troisième tendance, c'est l'expansion des risques liés au développement des nouvelles technologies, avec l'apparition du nucléaire, de l'automobile, de l'électricité, du transport aérien de masse ou maritime, et puis le développement de la pharmacie. Et puis, quatrième grande évolution, la persistance, parce qu'il faut bien parler de persistance, des risques de catastrophes naturelles. Il y a aujourd'hui dans le monde un nombre de catastrophes naturelles, il n'y a pas de raison qu'ils soient très différents de ceux que l'on a pu observer dans le passé, sous la forme de tremblements de terre, d'ouragans, de cyclones, d'inondations, de glissements de terrain. D'ailleurs, regardez là dans l'actualité récente ce qui s'est passé au Venezuela l'année dernière, ou les grandes inondations qui ont affecté le centre de la Chine, ou le tremblement de terre qui vient d'affecter la Turquie. Voilà la situation telle qu'on l'a connue, telle que nous la vivons, mais nous pensons, du moins j'ai la conviction, que le XXIe siècle verra des évolutions en profondeur sur la façon dont on va non seulement anticiper les risques, dont on va ensuite s'organiser pour gérer les nouveaux risques, et puis enfin la façon dont on va pouvoir anticiper des développements scientifiques amenant à ce que j'appellerais la science des risques. Voilà donc les trois questions que je souhaiterais évoquer. Au siècle prochain, quelle forme prendra la gestion des risques individuels et collectifs? Comment la société va-t-elle s'organiser pour gérer les nouveaux risques? Et quels sont les développements prévisibles de la science des risques? Alors j'aimerais insister sur ce premier point, c'est que l'univers des risques est en pleine mutation. Il ne faut pas croire que l'univers des risques est stable et que, un peu comme un monde fini, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel devenir. Et les risques d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 50 ans et ne seront pas ceux d'aujourd'hui, ne seront pas ceux dans 50 ans. Qu'est-ce qui fait changer les risques? Bien entendu, d'abord, c'est les transformations du monde. À chaque fois qu'apparaît une nouvelle technologie, immédiatement associée à cette technologie, apparaît des risques. La technologie est le principal pourvoyeur de risques nouveaux. Et alors là, nous sommes en période de Kondratiev avec une
formidable accélération du progrès technologique, ça se traduit par la multiplication des risques. Ce n'est pas un hasard si le mois où vous me demandez de participer à l'Université de tous les savoirs, le monde entier a été soumis au virus I love you. Nouvelles techniques de production également, tout ceci génère à chaque fois des risques nouveaux. Deuxième facteur, c'est les changements démographiques. À chaque fois, et je reviendrai sur ce point, bien entendu, ça concerne la retraite, mais ça concerne aussi la maladie, tous les risques d'existence. Aujourd'hui, vient en débat les risques de la dépendance. Nous ne parlions pas de dépendance il y a 50 ans. Ce terme, je ne sais pas si Xavier Gaulier peut me donner la datation exacte du terme, d'ailleurs, dépendance, qui est, à mon avis, un terme peu approprié à définir ce dont il s'agit. Mais la dépendance, c'est devenu, il y a seulement une vingtaine d'années, j'allais dire, un objet politique, et, au niveau local d'ailleurs, pour apparaître aujourd'hui au niveau national. Troisième facteur, c'est les évolutions de la nature, les changements climatiques, pour autant qu'il y en ait, mais il semblerait qu'il y en ait, modifient l'univers des risques, sachant aussi que la façon dont on exploite la nature modifie les risques. J'entendais un commentaire cette semaine sur ce qui s'est passé à la suite des orages de la semaine dernière, et immédiatement, on peut dire que le fait qu'il y ait des ruissellements, des effets de ruissellement extrêmement importants qui emportent les maisons, les voitures, que sais-je encore, sont liés au fait que l'aménagement de la nature par l'homme a modifié les équilibres, et notamment l'absorption de l'eau dans telle ou telle région. Il y a des choses qui sont plus naturelles depuis très longtemps, et je trouve toujours bizarre que les gens continuent de se plaindre des inondations en Camargue, puisque, ayant relu les bons auteurs, il semblerait que depuis 2000 ans, la Camargue soit une zone inondable, et donc je ne suis pas sûr qu'il faille avancer le fait de l'homme. Le progrès économique, alors ça c'est une chose très intéressante, il semblerait, contrairement à l'intuition commune, que plus un pays est riche, eh bien plus il va essayer de protéger ses biens. Et donc, plus que proportionnellement, lorsqu'il s'enrichit, plus que proportionnellement, il va consacrer des ressources à protéger ses biens. C'est un effet bizarre, parce qu'on pourrait penser spontanément que lorsque on est très riche au niveau d'un individu ou d'une nation, au contraire, on serait amené à moins dépenser de ressources et de temps à protéger ses biens. Non. La demande de couverture des risques est une fonction plus que proportionnelle de la richesse nationale, de la richesse d'individus. Et puis, dernière grande tendance qui permet d'expliquer les changements de risque, c'est les exigences de responsabilité qui se traduit notamment dans l'évolution des règles juridiques et puis dans la jurisprudence. C'est extraordinaire de voir à l'heure actuelle, par exemple, l'apparition de... Mais François Ewald serait plus... dans son rapport l'a bien montré, il serait plus capable que moi d'en parler, comment on est en train de créer un risque médical et puis une responsabilité du médecin et puis de savoir ensuite distinguer l'aléa de la responsabilité. Vous voyez bien qu'au cours du temps, la relation qu'on a pu avoir entre un malade et un médecin a été changée et dans lequel on a pu identifier un risque qui serait spécifique à toute intervention thérapeutique que l'on sépare d'un risque qui serait que le médecin ou le chirurgien fait une erreur de diagnostic ou une erreur de thérapeutique. Alors, plein d'évolutions donc apparaissent qui modifient ce qu'on appelle l'univers des risques. Qu'est-ce qu'on appelle changement de risque ? Que recouvre le terme changement de risque ? Là, c'est plus compliqué, parce qu'à la fois, il y a quatre phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'apparition d'un nouveau risque dans l'univers des risques, qui n'existait pas auparavant. C'est, par exemple, le clonage. Le jour où le clonage a réussi, le théoricien du risque dit immédiatement « Oh là là, mais ça a des tas de conséquences !» Tas de conséquences qui peuvent se produire d'ailleurs à la huitième génération clonée, pour autant qu'on puisse parler de génération clonée, puisque, comme vous le savez, on ne sait pas très bien dater les clones par rapport à leur souche. C'est les OGM, et bien qu'on est arrivé à faire des productions de maïs génétiquement modifiées, visiblement, on a créé ce jour-là un risque. Il est évident, pour prendre un exemple plus banal, que la maîtrise de la fission nucléaire a modifié l'univers des risques en rajoutant quelque chose qui n'y était pas spécifiquement auparavant. Dans le même temps, il y a la disparition de certains risques. C'est par exemple le fait que la peste n'occupe pas à l'heure actuelle les premières les unes des journaux, pas plus d'ailleurs que la rage, pas plus que les accidents de machines à vapeur. Et donc, pourtant, Dieu sait si au 19e, ça faisait la une. Eh bien non, on a changé dans l'univers des risques, on retire des risques, on en rajoute, et ceci aboutit à ce que j'appelle l'univers total des risques. Alors, troisième évolution plus fondamentale, c'est la modification des distributions de probabilité. Même si vous avez le même risque, les distributions de probabilité ne sont pas forcément les mêmes au cours du temps, elles évoluent. Ce qu'on appelle distribution de probabilité, c'est ce que l'on appelle, bien entendu, les fréquences et les distributions. C'est le nombre d'accidents sur la route. Celui-ci n'est pas constant dans le temps, comme le montre d'ailleurs le nombre de morts rapporté au nombre de kilomètres parcourus, ou par exemple le chômage. La probabilité d'être chômeur n'a pas été constante au cours de ces 30 dernières années. La distribution de probabilité a changé, et on voit bien à l'heure actuelle que le phénomène chômage est différent. Tout change, c'est ce qu'on appelle un changement de la distribution de probabilité, et à ce moment-là, on peut dire que le risque est différent, ce n'est pas le même univers. Ce n'est pas le même univers de vivre en 1958 avec un taux de chômage qui était de l'ordre de 2% et de vivre en l'an 2000 avec un taux de chômage qui reste de l'ordre de 10% de la population active. J'avais calculé un jour qu'avec un taux de chômage de 10% de la population active, et en faisant un calcul sur ce qu'on appelle le taux de récurrence du chômage, ça voulait dire que certaines catégories de la population étaient sûres d'être au moins chômeurs une fois dans leur vie. On voit bien que ce risque-là, il n'est pas de 10%, c'est un risque extrêmement prégnant, puisque vous voyez bien que si une petite partie de la population passe son temps à être au chômage, l'autre en étant comme vous avez exonéré, 10% ne correspond pas à 10% de probabilité pour une partie de la population, mais 100%, c'est, pour me faire entendre, la différence entre l'armée de métier et l'armée de conscription. Vous avez le même nombre de personnes dans l'armée, dans le premier cas, 10% de la population est dans l'armée à vie, l'armée de métier. Dans l'autre cas, chacun y passe 10% de son temps, donc tout le monde passe à l'armée, conscription. Vous voyez bien que la fréquence, il faut regarder la distribution de probabilité pour savoir la réalité d'un phénomène, le risque, par exemple, le chômage. Et puis, quatrième phénomène, très important, c'est l'évolution des moyennes et la variance des coûts. Pour un spécialiste des risques, la fréquence, c'est important, mais ce qui est très important, c'est de regarder quand il survient ce risque, quelle est la moyenne des coûts, et puis quelle est la variance des coûts, comment ceci se distribue, notamment ce qu'on appelle le risque de ruine, terme très important, les risques catastrophiques. Une chose est de parler de la moyenne des incendies de bâtiments il y a 5 ans, une autre est de dire que parmi cette moyenne, elle a été perturbée par l'incendie du Crédit Lyonnais qui a modifié substantiellement et le coût moyen des incendies et le montant global des incendies. Voilà, alors on peut illustrer ça très rapidement en regardant simplement une diapo. À quelques générations près, on s'aperçoit que les nombres de survivants par rapport à l'âge au décès, ce qu'on appelle les courbes de survie, eh bien changent de forme d'une génération à l'autre. Changeant de forme, l'idée de dire le risque est le risque de devenir âgé ou le risque est, une fois d'atteindre 60 ans, de vivre 20 ans, hein, ce qu'on appelle un risque de survie, en l'espace d'à peine 30 ans, nous ne parlons pas du même risque. En 1945, nous étions quasiment, dans la très grande majorité des cas, décédés au moment où on atteignait l'âge de 60 à 65 ans. À l'heure actuelle, c'est quasiment une certitude d'atteindre cet âge-là. Le risque de survie a modifié les formes, et voilà ce qui explique la modification de ces courbes. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de la modification de l'univers des risques, il faut être très précis. Quel risque est dedans? Quel risque rentre? Quel risque sort? Comment ces risques se distribuent dans la population? Quelle forme ils ont dans leur occurrence? Et là, on distinguera les risques très rares. Il y a des maladies extrêmement rares, d'ailleurs, comme par hasard, c'est celle pour laquelle on mobilise l'attention du public avec le Téléthon, extrêmement rare, mais extrêmement importante pour les gens qui la subissent. Et au contraire, on parle peu de la grippe, parce que c'est un risque tellement répandu dans la population que dans l'année, la probabilité de l'avoir est relativement élevée. Alors, il faut faire des typologies. Ce soir, je serai très rapide. Il faut évidemment distinguer les risques subis et les risques choisis. Il faut distinguer les risques sociaux des risques individuels. Les risques pour soi, ce que je supporte moi-même lorsque je fais du ski hors piste ou lorsque je décide de faire du saut à l'élastique, mesdames et messieurs, j'ai quand même l'impression de prendre un risque pour moi auquel je pourrais me soustraire en évitant de faire ces deux pratiques sportives. et des risques pour autrui, qui est de conduire vite avec trois personnes dans sa voiture. Des risques calculés et des risques inconsidérés, et puis des risques prévisibles et des risques purement aléatoires. C'est bien entendu dans un univers, à partir de typologies de cette nature-là, que l'on commence à rentrer dans les détails et d'éviter de parler globalement de risques sans les caractériser. Alors, qu'est-ce que c'est que les grandes tendances de l'évolution des risques au XXIe siècle ? Première grande tendance, j'en suis absolument convaincu, c'est l'expansion de l'univers des risques. La seconde tendance, c'est les changements dans la nature des risques que l'on va apprendre. La troisième tendance, c'est que ceci va conduire à une nouvelle gestion des risques, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Premier point, l'expansion de l'univers des risques. Je suis convaincu que le taux de disparition des risques anciens est moins rapide que le taux d'apparition de risques nouveaux, ce qui veut dire que l'univers de risques est en expansion et le XXIe siècle sera caractérisé par cette expansion des risques. De nombreux exemples. Premier point, la multiplication des risques liés au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai cité les virus informatiques tout à fait dévastateurs, le piratage des sites Internet, la sécurité des transactions, notamment avec les nouveaux moyens, la protection des droits de propriété, les bugs divers et les incidents réseau. Je ne cite que ça, tout ceci se traduit par des risques totalement en expansion. Il faut savoir que la sécurité informatique représente un coût à l'heure actuelle qui est de l'ordre, bon an mal an, de plus de 2 milliards de francs. L'amplification des risques consécutifs à des activités industrielles, là aussi, c'est pour ça que je pense que l'univers des risques est en expansion. L'effet sériel, c'est les chaînes alimentaires. On l'a vu récemment, lorsque vous produisez dans une usine pour alimenter des milliers de clients au travers de chaînes de distribution, non seulement en France, mais à l'étranger. Vous créez la même chose lorsque vous avez une molécule dans un médicament que vous mettez en vente un moment dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle l'effet sériel. La même chose en ce qui concerne les OGM. On crée donc un univers de risque où le monde étant ce qu'il est, ceci devrait se traduire évidemment par une modification substantielle de ce qui se passait lorsqu'un apothicaire du temps de Madame Bovary décidait de faire sa propre concoction, prenons en Normandie, éventuellement il se trompait, il y avait moins de victimes que de faire une erreur majeure dans tel ou tel type de médicaments distribués dans le monde entier. Puis un effet taille, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est en permanence, on augmente la taille des risques. Je peux citer par exemple l'A3X, qui est le prochain avion qui va être mis en construction. Au début du siècle, un avion, malheureusement, s'écrasait. Il y avait une victime, puis deux, puis 10, puis 50. Par définition, je ne le souhaite pas, bien entendu, il y a des probabilités que dans le XXIe siècle, avec des avions aussi importants et accueillant tant de gens, que le nombre de victimes un jour approche celle du Titanic. Et puis les problèmes de concentration urbaine, là aussi on ne se rend pas compte que les modes de vie collectifs à l'heure actuelle, qui intègrent des unités, font que ce qui s'est passé en Hollande ce week-end est là pour montrer que c'est le quartier qui est dévasté par l'explosion d'usines. Oui, alors j'ai un grand problème, mesdames et messieurs, c'est ayant regardé de nombreuses cartes sur le développement de la population et des activités économiques dans le monde, et avoir croisé ces cartes avec les risques naturels, notamment les risques de catastrophes naturelles, il semblerait que la population mondiale a un malin plaisir à systématiquement aller s'installer dans les zones à risque. Il y a davantage de gens qui vont s'installer en Californie, marqués par les tremblements de terre, qu'au fin fond du Middle West, où il n'y en a pas. Ceci vaut quasiment pour toutes les régions au monde. Il semblerait finalement que l'aversion au risque soit plus faible que je ne le pensais. Regardez les croisements et le développement de tout ce qui est la zone à risque, par exemple du Japon, de l'Inde, de l'Indonésie ou d'une partie de la Chine. Troisième phénomène qui explique l'expansion de l'univers des risques, c'est l'extension des risques de responsabilité. Partout, on voit cette mise en cause accrue de la responsabilité des professions de santé, je l'ai cité, des entreprises vis-à-vis des consommateurs, du management dans les résultats financiers ou des stratégies économiques de leurs entreprises, des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Cette formidable mise en avant du principe de responsabilité est en fait quelque chose qui est directement associé à l'apparition de ces risques et au traitement différentiel de risques. Et puis, dernier point, la globalisation des risques issus de la mondialisation économique et financière, c'est les risques financiers systémiques, c'est aussi les phénomènes de criminalité économique et financière, les problèmes de pillage technologique qui apparaissent désormais comme un phénomène potentiellement mondial. Excusez, c'est assez différent de ce qui pouvait se passer il y a encore quelques décennies. Et je citerai simplement pour mémoire les dangers, par exemple, liés dans l'univers des risques à l'apparition de nouvelles pandémies, le virus Ebola, j'ai cité le sida, je peux citer d'autres choses qui peuvent apparaître et qui, compte tenu des migrations, notamment touristiques, peut se propager extraordinairement des 5 continents au même moment, ce qui était absolument inenvisageable il y a encore quelques temps. Les changements dans la nature des risques. Oui, si l'univers des risques est en expansion, la façon dont les risques apparaissent ne sont pas les mêmes. Donc il y a une deuxième modification qu'on voit déjà à l'œuvre, bien entendu, et qui sera à l'œuvre dans les années qui viennent. C'est d'abord que les risques sont sans cesse plus endogènes qu'exogènes. Je veux dire par là, c'est que pendant une bonne partie du XXe siècle, on pensait que les risques étaient comme le pot de fleurs qu'on reçoit sur la tête lorsqu'on passe dans la rue à la suite d'un effet du vent. C'est indépendant de la marche du marcheur. C'est un phénomène purement aléatoire. Eh bien, non, plus le temps passe, plus on considère qu'au contraire, le comportement des agents interagit avec le risque, en partie est à l'origine du risque, et le risque détermine le comportement des agents. On le voit par exemple dans la conduite d'automobile, dans l'état de santé et la tabagie, ou les espérances de vie, les pratiques sportives. C'est ce qu'on appelle aussi cet effet de couverture. Le fait d'être couvert contre les risques change les comportements, je l'ai dit, et donc dans cette nouvelle vision, risques et comportements sont liés. Regardez la difficulté qu'on a à agir aujourd'hui, en l'an 2000, sur le comportement des conducteurs lors des 3 derniers week-ends du mois d'avril et du mois de mai. Deuxième évolution, c'est que les risques sont aujourd'hui sans cesse plus progressifs et moins accidentels que par le passé. Avant, c'était la maladie. Maintenant, les maladies sont dites dégénératives parce qu'on les suit plus dans le temps et on voit qu'elles dégradent progressivement l'état de santé de la personne. C'est la dépendance, je l'ai cité. Savoir quand on est en bonne santé et qu'on devient dépendant, c'est un processus continu. Il n'y a pas tout d'un coup, je suis dépendant, sauf à l'occasion d'un accident. Mais ça, c'est un accident. Mais je parle de la dépendance lorsque l'on dit, tiens, cette personne doit être prise en charge par la dépendance. C'est multicritère. Des spécialistes, sans doute, dans cette salle en savent plus long que moi. Voilà ce qui me semble encore important. Les dommages évolutifs d'atteinte à l'environnement. Les atteintes à l'environnement, c'est progressif. C'est lorsque vous avez une rivière polluée, ça va se dérouler, encore une fois, pendant le temps long. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle des risques progressifs, viennent s'ajouter aux risques accidentels et posent le problème difficile de la datation de la survenance du risque. J'aimerais opposer décès, où on a une date certaine, et puis un événement à dépendance, ou dans le cas, par exemple, du chômage, l'opposition entre employabilité, qui est le terme à l'heure actuelle qui est utilisé pour comprendre ce qui se passe au marché du travail, où la personne a perdu de son employabilité, mais quand l'a-t-elle perdu ? C'est un processus progressif qu'on appellera la déqualification, par rapport à devenir chômeur, qui était d'avoir un emploi, et tout d'un coup de ne plus l'avoir. Dans un cas, il y a un événement accidentel, dans l'autre, il peut y avoir un phénomène long, un phénomène progressif, un phénomène qui revêt des formes tout à fait différentes. Et puis les risques sont plus interdépendants, moins isolés, ils sont davantage corrélés. Par exemple, on découvre à l'heure actuelle que d'avoir été exposé à l'amiante et d'avoir fumé multiplie, je crois, par 400% le risque de développer telle ou telle forme de cancer, alors même qu'on ne le savait pas lorsque on isolait tel ou tel type de risque. Et puis enfin, les risques sont plus prévisibles, moins stochastiques que par le passé. Tout semble le montrer, beaucoup d'efforts scientifiques vont dans ce sens-là. La médecine devient prédictive, l'utilisation de la génétique va permettre de savoir quand apparaît une maladie comme l'Alzheimer. La météorologie, par exemple en matière d'ouragan, c'est extraordinaire de voir comment à l'heure actuelle on a fait des progrès, je ne parle pas pour savoir quel temps il fera le week-end prochain. La sismologie, bref, tout ceci fait que les risques sont plus prévisibles, moins stochastiques, moins aléatoires qu'auparavant. Univers des risques en expansion, des risques de nature différente. Troisième point, c'est une nouvelle gestion des risques, parce qu'effectivement, lorsque l'univers des risques change et que la nature des risques évolue, eh bien, ceci appelle une nouvelle gestion des risques. Alors, on note partout l'émergence de nouvelles attitudes face aux risques. J'ai dit tout à l'heure que le XXe siècle reposait sur 4 hypothèses de comportement qui ne sont plus vérifiées aujourd'hui. D'abord, je suis absolument convaincu qu'on voit émerger des nouvelles attitudes face aux risques. Les agents sont infiniment mieux informés qu'il y a encore 50 ans. La technologie de l'information nous permet à tout moment de savoir à peu près tout ce qui se passe. Je veux dire, vous arrivez à avoir la listériose ou un cas d'encéphalite ou un problème d'un troupeau abattu à la suite d'une maladie, c'est instantané. Et on reproche d'ailleurs que cette information, si elle est disponible, n'ait pas été communiquée immédiatement au public. Et donc, on passe d'un univers où le risque était peu connu, peu disséminé et l'information incertaine, à un phénomène dans lequel l'information est instantanée, donnée à tout le monde, à tel point que tout le monde a peur. Parce qu'entre nous, la probabilité aujourd'hui, dans un troupeau, d'avoir une vache folle est extrêmement faible par rapport au troupeau. Ceci dit, chaque événement a une telle résonance médiatique, une telle présentation forte, que nul ne peut dire que, par exemple, il ne sera pas à la retraite un jour, potentiellement, de même que nul ne peut dire qu'il ne sera pas atteint de tel ou tel type d'affection, de maladie, que sais-je encore. Comme les risques, comme j'ai dit, sont devenus un objet politique principal, puisque la totalité de l'organisation politique repose sur cette gestion des risques, cette intervention sans cesse dans les risques, tout le monde connaît maintenant, week-end par week-end, le nombre de blessés sur la route, ou le fait qu'il y a eu un incendie dans le tunnel du Mont-Blanc. Les agents sont informés, hyper informés, des risques. Deuxième évolution, les agents sont plus dynastiques qu'auparavant. C'est une thèse que j'ai souvent développée, je la présenterai très rapidement, c'est que je pense que l'horizon économique des agents aujourd'hui est beaucoup plus long que par le passé. Ils ont compris que leur espérance de vie a considérablement augmenté, ils sont davantage dynastiques qu'auparavant, alors qu'auparavant, je vous rappelais qu'ils étaient myopes. Troisième évolution, c'est que les agents restent à l'heure actuelle des agents qui ont une aversion pour le risque, ils sont davantage hostiles au risque en général, alors qu'auparavant ils étaient relativement inconscients. Ceci est effectivement dû à ce qu'on appellerait un effet révélation. La surinformation sur les risques conduit à une généralisation d'une attitude dans laquelle on a, je crois, la volonté de se prémunir parce qu'on sait qu'ils sont là. C'est incroyable, j'ai un fils de 11 ans qui, à chaque fois qu'on lui sert de la viande, demande la probabilité exacte que cette viande puisse avoir été contaminée par la vache folle. Je dois vous avouer que lorsque moi-même, il y a quelques décennies, je mangeais la viande, il ne m'avait pas l'idée de poser cette question. Et enfin, des agents plus rationnels dans la gestion des risques, c'est très important. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils veulent savoir, participer à la gestion. On le voit d'ailleurs dans l'accès aux décisions médicales. La personne qui va subir une opération veut être informée de la gestion des risques auxquels il s'expose. Voilà donc une inversion. C'est des tendances, bien entendu. Ce n'est pas toute la population, mais c'est normal que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, quelles sont les grandes évolutions ? La première évolution, c'est de la réparation à la prévention. J'allais dire que le XXe siècle a été le siècle de la réparation suite au risque, et je pense que le XXIe siècle sera celui de la prévention. Prévention des risques, c'est-à-dire réduire la fréquence, réduire les coûts moyens, éradiquer les risques extrêmes. Oui, voilà ce qui va sous-tendre le débat au XXIe siècle, avec une idée d'optimalité. Il est évident que si on empêche tout le monde de circuler, il n'y aura plus d'accident sur la route. De même que si on interdit aux avions de voler, le nombre de cracks aériens sera sans doute, a priori, décroissant exponentiellement vers zéro. On voit bien que le problème d'optimalité, c'est jusqu'où accepter des risques, jusqu'où réduire la vitesse, parce que si c'est à zéro, comme je le dis, personne ne circule et du coup, il n'y a pas d'accident automobile, mais on a le sentiment que les gens veulent quand même. Donc, partout, dans tous les domaines, il faudra trouver la balance entre ce à quoi les gens acceptent de s'exposer en ayant maîtrisé au mieux par des activités de prévention, la surveillance des risques. Et puis les moyens de la prévention, c'est toujours les mêmes, la législation, la mise en cause des responsables pour l'absence de prévention, et je crois beaucoup à un développement qui a tardé à venir, c'est les tests, c'est les contrôles, c'est la certification, c'est-à-dire l'idée sur laquelle on peut éradiquer le risque dès lors, en tout cas largement, dès lors que l'on procède en permanence à cette gestion extrêmement rigoureuse. J'ai toujours aimé en France que les commissions d'enquête se déclenchent après la catastrophe. Toujours après la catastrophe, la commission d'enquête rend un superbe rapport après la catastrophe. Il est bizarre comment je n'ai jamais vu de commission d'enquête avant la catastrophe. Pourtant, les tunnels étaient là, les bateaux étaient là. Bref, un vrai problème. Si on n'ira pas jusqu'au bout, sachez-le, parce que de temps en temps, quand bien même on saurait qu'il y a des tempêtes, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette tempête est absolument épouvantable si on avait su ça deux jours plus tôt. on aurait sans doute évité une partie des dégâts des tempêtes Lothar et Martin, des deux tempêtes Lothar et Martin à la fin du mois de décembre. Je signale quand même qu'on n'aurait pas coupé tous les arbres pour empêcher qu'ils soient abattus, parce qu'on aurait eu le même résultat. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On aurait évité des vies, on aurait sans doute évité des dommages aux biens, on n'aurait pas évité une bonne partie de ce qui a fait la tempête. Deuxième grande évolution, c'est de la prévention à la précaution. Là aussi, devant François Ewald, c'est la grande évolution. La première, donc, de la réparation à la prévention, de la prévention à la précaution. Là, c'est trop long pour que je puisse développer ce point-là. Vous voyez le débat actuel sur la précaution, qui est fondamental, qui est de dire, écoutez, la prévention, c'est pour des risques connus. Là, on peut faire des choses. Mais le XXIe siècle, c'est la précaution qui va devenir un des thèmes, même lorsque le risque est peu connu, lorsqu'il est difficile à anticiper, lorsque on n'a pas les états du monde, ce qu'on appelle les lois de probabilité, lorsqu'on ne sait pas très bien à quoi servent les efforts de prévention, lorsque les conséquences des risques sont à très long terme. La modification du maïs génétique, c'est peut-être dans deux ou trois générations qu'on saura exactement ce qu'on aura modifié. Eh bien, même dans ce cas-là, qui échappait pour le moment totalement à l'intervention publique, on dit qu'il y a une intervention publique nécessaire au nom du principe de précaution pour gérer ce risque, alors même qu'il n'appartient pas à l'univers des risques traditionnels que j'ai pu décrire tout à l'heure. On voit bien que de la réparation à la prévention, et puis maintenant de la prévention à la précaution, nous avons des modifications substantielles de la gestion des risques. Très rapidement, quatre évolutions pour conclure. L'information et la sélection, nous avons un véritable problème. Parce qu'on voit bien que plus on descend dans le risque individuel, plus on s'abstrait du risque social que l'on identifie par des moyennes, des fréquences, des statistiques, mais que l'on va essayer de gérer risque après risque, notamment pour l'individu, nous allons avoir des problèmes d'information et bien entendu de ce qu'on pourrait risquer de sélection. C'est le problème du déchiffrage du génome humain, c'est les problèmes de connaissance fine des pratiques de conduite automobile. Vous voyez le débat, faut-il mettre un mouchard dans les automobiles pour savoir finalement quelle est la vitesse à laquelle circule l'individu? Parce qu'on met un mouchard dans les automobiles, on a, comme il existe d'ailleurs sur les camions, et on sort immédiatement, l'ordinateur crache les vitesses moyennes, le nombre de fois on a dépassé 130, etc. Débat, pour le moment, dit non, jusqu'au moment où on considérera que si c'est le moyen absolu pour réduire de 8000 morts par an à quelque chose qui serait infiniment inférieur, ce débat réapparaîtra. Mais vous voyez bien que c'est le problème de l'information, et jusqu'où peut-on aller dans l'information. C'est la même chose pour la localisation par satellite, la rapidité de traitement statistique et autres. Les problèmes de confidentialité, d'éthique et d'accès à ces informations sont omniprésentes, on le sait sur les débats qui concernent la médecine génétique ou la médecine prédictive, et puis les problèmes, bien entendu, épouvantables, en tout cas à traiter, qui sont les problèmes de la sélection à partir de l'information, jusqu'où peut-on traiter les risques individuellement et donc utiliser cette information dite privative pour avoir une gestion individuelle des risques. Et vous voyez bien que le XXIe siècle nous pousse dans cette direction-là, alors que le XXe, on est resté dans des catégories abstraites. La différence entre indemniser le chômage et trouver un emploi à un chômeur, on voit bien que ça modifie le comportement. C'est la seconde évolution, responsabilisation et mutualisation. Comment à la fois renforcer la responsabilité de chaque acteur vis-à-vis des risques, tout en assurant une couverture satisfaisante des risques par la mutualisation. On voit bien qu'il y a une tension féconde entre ils sont responsables, ils doivent l'assumer, et nous sommes dans une société organisée, nous ne pouvons pas laisser les gens face à leurs risques, et si le risque survient, que l'on ne participe pas à essayer d'empêcher que ces risques se traduisent par des catastrophes individuelles ou collectives. Troisième point, c'est les innovations et les adaptations. Il y a quantité à l'heure actuelle d'innovations pour gérer les risques, ce qu'on appelle les transferts alternatifs des risques, en plus évidemment des solutions assurantielles. Je n'entrerai pas dans le débat sur les catastrophes bonds ou sur les degrees dérivatifs. En revanche, j'insisterai davantage sur le fait que les risques au XXIe siècle supposeront un suivi actif. C'est ce qu'on appelle le monitoring. On va suivre les entreprises dans leur développement pour être sûr qu'elles ont intégré cette dimension du management du risque à toutes les étapes de leur développement. Dans le domaine médical, c'est le manage life cycle ou le manage care, c'est-à-dire plutôt que de rembourser une prestation à suite d'une maladie, c'est le suivi de l'individu dans le temps pour l'aider à gérer son capital santé, que ce soit par des pratiques sportives ou des modifications des régimes alimentaires. Dans le domaine du chômage, c'est la proposition que nous avons faite de contrat de retour à l'emploi qui suppose un suivi individuel assez éloigné de l'indemnisation telle qu'elle est pratiquée jusqu'à présent. Et puis, des problèmes de tarification, de contractualisation, que je ne développerai pas. L'adaptation des institutions qui concourent à la gestion des risques est nécessaire. Nous avons besoin de nouvelles règles juridiques pour régler les problèmes d'éthique, je l'ai dit, information, sélection, mutualisation, exclusion, discrimination, tous ces termes doivent être précisés si on veut les appliquer à la nouvelle gestion des risques. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où ne doit-on pas aller? Voilà, me semble-t-il, les débats que le XXIe siècle va devoir traiter. Des nouvelles normes de solvabilisation, des nouveaux marchés, puis un nouveau rôle pour l'État. L'État voulait gérer directement les risques. Ça pose un problème politique majeur lorsqu'il survient. Et je pense donc que dans cette réorganisation de la gestion des risques, l'État est appelé à changer de rôle. Il sera sans doute là pour édicter des normes et moins pour participer directement à la gestion des risques, parce que je pense que ce n'est pas forcément son devoir. Je pense vraiment que nous allons vers une science intégrée des risques. Et ça va être quelque chose de merveilleux au XXIe siècle, comme pour tout scientifique, comme tout chercheur, que de se dire que progressivement, on voit dans la société tous les types de contrats de portage de risques. Lorsqu'on regarde un contrat de travail, on partage le risque entre l'employeur et le salarié. Lorsqu'on regarde un contrat de mariage, c'est un partage des risques. Quand vous lisez d'ailleurs un contrat de mariage, ça ressemble à un contrat d'assurance, puisque vous unissez pour le meilleur et pour le pire, et que vous décidez de faire assistance et secours mutuel. Quand vous pensez à ces termes-là, c'est une forme de contrat de portage de risque. Un produit financier, bien entendu, que ce soit une action, une obligation, un prêt, c'est un partage des risques. Un contrat de location est un partage de risques. Tout dans la vie, ce sont des partages de risques. Et dans ces risques-là, il y aura le risque de survie, le risque d'être chômeur, les risques de catastrophes naturelles, etc. Et donc, nous sommes à la veille d'une grande évolution dans laquelle la science va s'emparer de ceci, va décomposer tous les risques en éléments simples et en combinatoires de produits de couverture, et nous allons peut-être, au XXIe siècle, voir émerger ce que j'appellerais un tableau de Mendeleïev des risques et des partages de risques, qui permettra bien entendu de trouver formellement des solutions à des problèmes inconnus, puisque si toute société s'organise individuellement et collectivement dans la gestion des risques, si on a trouvé les bases scientifiques des contrats de partage qui sont les plus adaptés à la situation, qui permettent à la fois de faire jouer la responsabilisation et la mutualisation, qui permettent de développer la prévention, qui permettent de mettre en œuvre le principe de précaution. Si on arrive à trouver ce qui est le plus efficace, le plus optimal pour gérer les risques auxquels, mesdames et messieurs, nous faisons tous face dans notre vie, eh bien, nous aurons, je crois, un XXIe siècle marqué par la maîtrise de notre destin. Et si nous y parvenons, je pense que le risque, c'est ma dernière diapo, sera peut-être la valeur positive du XXIe siècle. Je vous remercie.